Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Marie Casadebé.
Gros plan aujourd'hui sur la maladie de Lyme, cette maladie transmise par les tiques, petite bête que l'on retrouve dans les bois et forêts, qui suscite l'inquiétude. Elle touche les pays de l'hémisphère nord et le nombre de cas est loin d'être négligeable. En France, au moins 33 000 personnes auraient contracté la maladie en 2015. En Allemagne, ils sont 100 000. Cette infection peut provoquer des complications très invalidantes comme des paralysies, des douleurs violentes, des troubles de la mémoire. Or, elle est difficile à diagnostiquer et parfois à traiter. Cette maladie complexe sème même le trouble et divise le corps médical. Maladie de Lyme, la menace silencieuse, un grand reportage de Valérie Cohen réalisé par Sandrine Straram.
Je l'appelle mon Moriarty, parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez Sherlock Holmes, mais Moriarty était quelqu'un qui était capable de créer des crimes qui semblaient n'avoir aucun lien les uns avec les autres, mais qui, lorsqu'on assemblait les pièces du puzzle, formaient une gigantesque conspiration. C'est un peu ce que Lyme fait. Vous allez voir tout un tas de petits dysfonctionnements qui vont apparaître, sans aucun lien les uns avec les autres, et qui vont aboutir, en fait, à un moment, à un effondrement de l'ensemble du système. En agissant comme ça de manière extrêmement éparse, on a presque l'impression qu'elle s'est fabriquée pour ne pas pouvoir rentrer dans le cerveau d'un médecin.
Le docteur Pierre Marion a les yeux qui brillent lorsqu'il évoque la maladie de Lyme. Il brille d'admiration pour l'intelligence de l'ennemi. Cette maladie déroutante, qui avance masquée, est un défi pour les médecins, en même temps qu'une souffrance pour les malades. Myriam Sobebel ne s'est pas méfiée. Il y a 20 ans, cette petite dame blonde, qui vit à la campagne entourée de chevaux, retire une tique accrochée à sa nuque. Quelques jours après, une tache rouge apparaît. Un coup de soleil, se dit cette habitante du sud de la France. Surviennent une fatigue intense et des douleurs articulaires, puis une grave inflammation des yeux et une méningite. Le début de l'enfer. Après 3 ans d'errance médicale, elle arrive dans le service du professeur Perronne à l'hôpital de Garches en région parisienne. C'est là qu'elle est suivie depuis.
Bonjour, monsieur Perronne.
Alors, comment ça va aujourd'hui, là ?
Actuellement, ça va mieux parce que avec la disulone, ça se passe bien mieux, quoi. Voilà.
Bon, ben, tant mieux, vous avez bien supporté le traitement, il n'y a pas eu trop d'effets secondaires au début.
Si aujourd'hui, Myriam Sobebel va mieux, elle se souvient très bien de l'état dans lequel elle était lors de la première consultation en 2001.
Quand j'arrive ici, je suis en mauvais état, vraiment. J'ai du mal à marcher, j'ai mal à toutes les articulations, je ne peux pas tenir un livre, c'est impossible d'utiliser mes mains, les mains sont à moitié mortes, elles brûlent, j'y vois mal, j'ai perdu de l'audition et surtout j'ai plus de mémoire. J'ai dû quitter précipitamment mon poste d'institutrice parce que je ne savais plus à qui je m'adressais. À peu près toutes les 15 secondes. Il fallait que j'aie un roadbook sous les yeux pour savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train d'enseigner, avec des stratégies incroyables pour me souvenir où j'étais et ce que j'étais en train de faire et qui j'avais en face de moi.
Le coupable dans l'histoire, c'est une bactérie baptisée Borrelia. C'est elle qui est à l'origine de la maladie de Lyme, une maladie ancienne, mais qui a été identifiée formellement dans les années 70 dans la petite ville de Lyme, sur la côte est des États-Unis. Si la Borrelia est la coupable, la tique est un complice indispensable. Cette petite bête de quelques millimètres vit dans les bois, les forêts, les pâtures et parfois dans les jardins. Quand elle mord un animal ou un homme pour se gorger de sang tel un vampire miniature, la tique peut transmettre la bactérie. Tique et Borrelia forment ainsi une association de malfaiteurs. Sarah Moutaillé examine ces bestioles sous toutes les coutures. Elle est entomologiste, chercheur, au sein de l'ANSES, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.
Donc là, on va rentrer dans notre laboratoire qui est un laboratoire de niveau 2. Donc pour rentrer dans ce laboratoire, il faut que vous mettiez vos surchaussures et puis on va mettre aussi une blouse.
Niveau 2, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc c'est l'agent pathogène en fait qui est classé niveau 2. Donc c'est des agents pathogènes qui ne sont pas mortels pour l'homme notamment.
Mais qui ne sont pas très sympas non plus ?
Non, pas tous, ça c'est sûr.
Ça y est, on est équipés, on ressemble à des chercheurs. Enfin moi en tout cas, on vous suit.
Donc là, on est rentré dans la pièce où on a l'habitude de travailler pour tout ce qui est identification des tiques. Donc nos tiques, on les ramène du terrain. Et puis, il faut être sûr de l'espèce sur laquelle on travaille. Donc on la regarde à la loupe binoculaire, donc qui grossit la tique. Et on va regarder des critères bien précis qui nous permettent d'identifier correctement notre espèce de tique. Comme tout laboratoire, en fait, on a des congélateurs, soit moins 20, soit moins 80, parce qu'on a besoin de conserver ce qu'on a extrait des tiques au froid pour une conservation à très long terme et être sûr que ça ne se dégrade pas.
On peut voir ?
Oui, bien sûr. Donc là, vous avez, voilà, comme ici, des tubes dans lesquels on a plusieurs femelles rassemblées pour lesquelles on étiquette vraiment la zone où a été collectée la tique. Et du coup, nous, après, on peut revenir travailler dessus plus tard.
Avec leurs quatre paires de pattes, les tiques ne sont pas des insectes, mais des acariens. Sarah Moutaillé et ses collègues vont les collecter, vivantes, en forêt. Elles s'intéressent en particulier à celles du genre Ixodes, qui sont capables de transmettre la Borrelia. Dans le laboratoire, une dizaine de tiques patientent en faisant les 100 pas dans une petite boîte transparente.
Ici, vous avez une boîte avec des femelles. Donc les femelles Ixodes ricinus font, je dirais, 6-7 mm. On voit bien une partie du corps qui est noire, c'est la partie rigide en fait de leur dos, et une partie qui est rouge, qui est une partie molle, et c'est la partie qui s'agrandit pendant le repas sanguin. La tique peut grossir d'à peu près 20 fois de sa taille pendant le repas sanguin. Donc ensuite, elle va ressembler à un grain de raisin, mais un grain de raisin voilà, moyen, bien plein. Donc c'est assez impressionnant. Et on voit aussi à l'avant son rostre, donc en fait les pièces buccales avec lesquelles elle s'attache et avec lesquelles elle pique, donc elle dilacère les tissus, ça déchire la peau, elle crée un petit ciment qui lui permet de se rester bien accroché à la peau tout le temps où elle a besoin de se gorger. Elle injecte en même temps des anti-inflammatoires pour pouvoir rester accrochée le plus longtemps possible et qu'on la sente pas, des anticoagulants pour que le sang reste bien liquide et que pendant tout le temps où elle soit accrochée, en fait elle puisse récupérer le sang qui l'intéresse. Et elle va rester accrochée 8 à 10 jours le temps d'avoir fait un repas sanguin complet. On va la regarder à la loupe binoculaire un petit peu plus près.
Alors elles sont là pour l'instant dans des sortes de fioles transparentes. Et qu'est-ce que vous faites ?
Alors je prends un petit pinceau parce que c'est plus facile avec un pinceau de pouvoir les récupérer. Donc on récupère juste la tique qui est vivante sur le pinceau. Puis on la dépose dans une boîte de pétri, donc une petite boîte ronde. Transparente, qui nous permet ensuite de regarder à la loupe binoculaire. En fait, voilà, donc on a notre tique qui est zoomée. C'est une jolie femelle récupérée en forêt de Sénart.
Alors, je peux regarder. Elle est bien, bien brillante. Elle se déplace un petit peu comme une araignée, j'ai l'impression.
Elle a plein de petits poils en fait sur le dos, donc elle est belle, elle brille, elle est agile. Hein.
Alors, vous pouvez nous expliquer comment elle s'y prend pour piquer l'homme ?
Cette espèce-là, c'est une tique qui se met à l'affût, donc c'est-à-dire qu'elle se met en position sur un brin d'herbe ou sur une fleur ou sur quelque chose en hauteur pour ensuite ouvrir ses pattes au maximum, où elle a des capteurs sensoriels qui lui permettent de sentir ce qui se passe dans l'environnement. Et elle va être capable comme ça de sentir un hôte qui approche. Elle se laisse tomber dessus et elle grimpe. Sur l'animal ou sur la personne, elle grimpe et elle cherche une zone qui est propice pour elle pour se fixer. Donc ils se mettent dans des zones qui sont humides, agréables, donc c'est pour ça que les plis de genoux, on plie sous les bras, et parfois directement dans le cuir chevelu.
Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. En France, entre 5 et 30% des tiques seraient infectées selon les zones. Aux États-Unis, sur la côte Est, on serait au-delà des 50% à certains endroits. La maladie de Lyme touche essentiellement l'hémisphère nord. L'Afrique subsaharienne ne serait pas concernée. En revanche, les tiques y transmettent un autre type de Borrelia qui donne des fièvres récurrentes. Alors comment tiques et Borrelia de Lyme se rencontrent-elles ? Les tiques s'infectent lorsqu'elles piquent des animaux dits réservoirs, c'est-à-dire qui peuvent héberger la bactérie sans être malades. Écureuils, rongeurs, oiseaux, sangliers, chevreuils. La tique peut ensuite transmettre la Borrelia à d'autres animaux, vaches, chevaux, chiens, ou à l'homme, avec pour les uns et les autres le risque de développer la maladie. Une fois inoculée dans le corps humain, la borrélia s'installe parfois incognito. Christian Perron est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches.
Une fois sur deux seulement, il va apparaître une rougeur en cocarde autour du point de piqûre qu'on appelle l'érythème migrant. Quand il y a cette plaque rouge en cocarde, c'est la caractéristique formelle que c'est une maladie de Lyme. Et votre médecin est tenu de vous donner un traitement antibiotique pendant 2 à 3 semaines pour traiter cette infection débutante. Malheureusement, une fois sur deux après la piqûre de tique, on ne voit pas la tache rouge, donc tout passe inaperçu, et c'est dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, vont apparaître des signes qui sont pas du tout caractéristiques et qui sont un peu bateaux, je dirais, comme au départ un peu de douleur, de la fatigue. Alors ça peut rester modéré, ça peut être totalement invalidant, c'est-à-dire que des gens qui étaient en pleine forme se disent « je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis incapable de me lever le matin », ça peut être un épuisement permanent qui empêche de travailler, des douleurs qui peuvent être quelquefois très violentes, qui peuvent changer de place. Et très souvent, on a tendance à dire « bon, vous êtes fatigué, vous avez mal, c'est psychosomatique, c'est dans la tête ».
Si elle n'est pas stoppée net dès le début, la bactérie peut poursuivre ses méfaits. Les troubles peuvent atteindre le cœur, les yeux, les articulations, la peau, le cerveau, avec notamment des paralysies ou des troubles cognitifs. La maladie de Lyme continue ainsi de brouiller les pistes.
Après, il apparaît souvent des signes objectifs, c'est-à-dire que le médecin peut constater lui-même. Si c'est le cœur, on peut avoir une péricardite qu'on voit à l'échographie. Si c'est les articulations, on peut constater que les articulations sont inflammatoires et gonflées. Mais malheureusement, la maladie de Lyme va donner les mêmes signes que beaucoup d'autres maladies. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande simulatrice. Et pour le pauvre médecin, c'est très difficile parce que il peut pas distinguer une maladie de Lyme d'une fibromyalgie, d'une polyarthrite rhumatoïde, d'un syndrome de fatigue chronique. Et donc il va se reposer entièrement sur le test diagnostique qu'on appelle la sérologie, c'est-à-dire qu'on va rechercher les anticorps que le malade a produits contre la bactérie, mais qui malheureusement est très mauvais. Souvent, on passe à côté où le médecin vous dit, ben, voyez bien, c'est pas la maladie de Lyme, je vous l'avais bien dit, alors que ça peut être une vraie maladie de Lyme.
La maladie de Lyme sème la zizanie dans l'organisme, mais aussi la discorde dans le monde médical. Les tests diagnostiques sont-ils fiables? La question divise les médecins. Reste que le Haut Conseil de la Santé publique a reconnu dans un rapport de 2014 que ces tests manquaient de fiabilité. L'histoire se complique encore quand on sait que les médecins sont peu formés à la maladie de Lyme et à ses symptômes très divers. Résultat, des patients se retrouvent en errance médicale des années, comme Sandrine Dufis, une motarde combative, qui est allée d'un médecin à l'autre pendant 4 ans pour mettre un nom sur son mal.
J'ai vu une quarantaine de médecins pour essayer de comprendre ce que j'avais, c'est-à-dire il y avait des neurologues, rhumatos, internistes, cardiologues, puisqu'à chaque fois il y avait des symptômes différents qui allaient du cœur à l'œil, ophtalmique, qui allaient des douleurs musculaires articulaires jusqu'aux douleurs pulmonaires, jusqu'à la perte des jambes, une fatigue chronique qui est insupportable. Moi, on m'a envoyé chez le psy plusieurs fois, on m'a dit 3 fois que j'étais en burn-out, et j'ai 5 ordonnances de Prozac pour pas le nommer, tout ce qui est antidépresseur pour dire que finalement je suis très fatiguée et que si je me pose et que je prends des antidépresseurs, ça ira mieux. Mais bien sûr, c'est pas ça.
Ce n'était pas ça non plus pour Valérie Malarme. Son médecin n'a pas su reconnaître la fameuse tache rouge pour ce qu'elle était, le signe de l'infection. Puis quand surviennent des troubles graves, personne ne les attribue à la maladie de Lyme, d'autant que le test revient négatif. On conseille à Valérie Malarme d'aller voir un psychiatre. Elle se tourne alors vers son vétérinaire.
Je me suis battue toute seule dans mon lit, devant Internet. Donc moi, j'ai mis 3 mois à trouver ce que j'avais. Et puis, j'ai vu sur Internet que les tests vétérinaires avaient l'air beaucoup plus sensibles, que les vétérinaires connaissaient bien cette maladie, évidemment, sur les chiens, etc. Donc j'ai décidé d'aller voir mon vétérinaire. Bon, mon vétérinaire, vu mon état de santé quand il m'a vu débarqué dans son cabinet à l'époque en fauteuil roulant, il m'a dit ok. Donc sous l'emprunt du prénom de mon chien, puisqu'il faut savoir qu'en France on n'a pas le droit de passer un test vétérinaire en tant qu'humain, j'ai fait le test qui s'est révélé positif. Donc je suis une dalmatienne de 9 ans stérilisée, cette dalmatienne qui en fait est moi derrière, à Lyme. Voilà.
Les animaux seraient-ils mieux pris en charge que les humains? Pour l'heure, ce test vétérinaire n'a pas été validé comme outil diagnostique chez l'homme. Avec plus d'une centaine d'autres patients, Valérie Malarme a porté plainte contre des laboratoires fabriquant des tests humains. Aujourd'hui, cette jolie Provençale de 46 ans va mieux, mais elle marche encore difficilement, aidée d'une béquille. Depuis 3 ans, elle est soignée par des cures d'antibiotiques de plusieurs mois, associées à d'autres médicaments. Un traitement très long qui va à l'encontre des recommandations officielles adoptées aux États-Unis il y a longtemps et reprises dans tous les pays confrontés à Lyme. Là encore, la maladie divise le corps médical, en France et ailleurs, en 2 camps farouchement opposés, comme pour les tests. Dans l'Hexagone, le professeur Perron et plus d'une centaine de médecins qui s'intéressent à Lyme battent en brèche le protocole officiel. Ils sont soutenus par les associations de malades, mais parfois inquiétés par le Conseil de l'Ordre des médecins ou la Sécurité sociale. Pour le professeur Perron, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches, il existe une forme chronique de la maladie qui nécessite des traitements longs.
Le petit groupe d'experts qui a fait la loi depuis des décennies aux États-Unis avait décidé pour tout le monde que 15 jours, 3 semaines d'antibiotiques, c'était bon, que tout le monde était guéri, même dans des formes sévères qui duraient depuis des années. C'est totalement faux. Ça ne veut pas dire que certains malades, pas trop malades, avec un bon système immunitaire, vont pas guérir après des traitements courts, mais beaucoup vont continuer quand même d'évoluer à bas bruit, voire pas être guéris du tout, et continuer de s'aggraver après la fin du traitement. Et le grand scandale, c'est qu'au lieu de se pencher là-dessus, alors que des publications scientifiques montrent que la bactérie persiste, c'était montré chez l'animal, c'était montré chez l'homme, eh bien ils disent « Non, vous n'avez plus la maladie de Lyme, vous avez reçu 3 semaines d'antibiotiques, c'est un syndrome post-Lyme », c'est un terme qui a été inventé comme ça, en disant « Maintenant, c'est des séquelles, ou c'est inflammatoire, mais circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est plus la maladie de Lyme, on en est là aujourd'hui ».
Pour les partisans de la vision officielle, ces traitements longs augmentent le risque d'effets indésirables sur l'organisme et le risque d'apparition de résistance. Par ailleurs, pour eux, l'utilité de ces longues cures d'antibiotiques n'a pas été prouvée. Professeur François Bricaire, spécialiste de maladies infectieuses à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris.
On est dans une période, une ère, où la médecine, même si elle reste un art, n'en est pas moins un art appuyé sur des données scientifiques. Pour le moment, tout ce qui est dit sur la maladie de Lyme, on va dire orthodoxe, est démontré scientifiquement. Tout ce qui est annoncé sur le Lyme chronique, en particulier par Christian Perron et d'autres, ne sont pas démontrés scientifiquement. Il faut à ce moment-là faire des études avec des malades où on compare d'un côté les gens qui ont des traitements longs et de l'autre côté les traitements courts. Donc il faut rester scientifique.
Reste que les lignes commencent à bouger. Certains pays réévaluent le protocole officiel de prise en charge, et parfois aussi les statistiques, car la maladie est sous-diagnostiquée. Ainsi, selon des experts américains, 300 000 personnes contracteraient Lyme chaque année aux États-Unis. C'est 10 fois plus que les estimations qui avaient cours jusqu'alors. Dans le pays, la maladie est désormais considérée comme une menace très sérieuse. Une menace qui s'étend, car les tiques gagnent de nouveaux territoires. En France, un plan a été annoncé fin 2016 pour informer le public, former les médecins, réévaluer le protocole de diagnostic et de soins et encourager la recherche. Une recherche qui est, plus que jamais, fondamentale. Car, comme si la maladie de Lyme n'était pas assez compliquée, d'autres malfrats sont entrés en scène et brouillent un peu plus les pistes. On sait aujourd'hui que la tique peut héberger non pas une bactérie pathogène, mais plusieurs microbes, et qu'elle peut en transmettre certains à l'homme. Lesquels précisément? Combien à la fois? Comment est-ce qu'ils interagissent dans l'organisme? Comment diagnostiquer ces co-infections et les traiter? Est-ce que l'on se trompe parfois de coupable en attribuant à la Borrelia de Lyme des troubles qui pourraient en fait être l'œuvre d'un compère? Des questions sont innombrables. L'enquête ne fait que commencer. Maladie de Lyme, la menace silencieuse, un grand reportage de Valérie Cohen, réalisé par Sandrine Straram.
Mm-hmm.